Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Hébreux chapitre 12. Nous commençons un nouveau chapitre cette fois-ci et mon texte est du verset 1 au verset 2. Et je voudrais vous parler de ce que c'est vivre une vie de foi. Nous entendons les gens utilisaient ce mot « foi » de plusieurs manières. Parfois, on vous demande, mais est-ce que vous êtes un homme ou bien une femme de foi? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ici, dans ces deux versets, nous avons un exemple de vivre une vie de foi. Comme les Écritures nous disent, le juste vivra par la foi, c'est-à-dire celui qui est justifié par Dieu, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, voilà celui qui est juste devant Dieu, justifié, et un tel vivra par la foi. Donc ici, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 et 2, nous lisons « Nous donc aussi ». Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et puis le verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ici, comme un premier point, je note que vivre une vie de foi, c'est vivre une vie vécue, comme ceux qui nous ont précédés. Nous n'avons pas besoin d'aller par-ci, par-là pour chercher ce que c'est vivre une vie de foi. Nous avons déjà ici des exemples, comme nous venons de traverser dans le chapitre 11 de cet épître. Le chapitre 11 étant un chapitre que d'autres appellent la salle de foi. Si vous entrez dans une maison et voilà plusieurs salles, c'est une maison de foi qui vient d'être décrite dans le chapitre 11. Et donc, maintenant, nous avons cela mentionné par l'écrivain de cet épître, dans le premier verset, lorsqu'il dit « Nous donc aussi ». Vous voyez le lien maintenant entre le chapitre 12 avec ce que nous venons de traverser dans le chapitre 11. Lorsque nous lisons « aussi »,« nous donc ». Voilà une application pour nous qui sommes en train de lire ces Écritures, de savoir que nous sommes, comme c'est écrit ici, environné ou bien entouré d'une si grande nuée de témoins. Lorsque c'est écrit ici que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, cela ne veut pas dire qu'il y a ceux qui nous ont précédés maintenant qui nous regardent du ciel en train de courir maintenant cette voie dans laquelle le Seigneur nous a placés par sa grâce, mais c'est une illustration comme dans une stade où il y a des témoins qui regardent ceux qui courent et qui attendent à ce que leur événement soit accompli. C'est une illustration que l'auteur donne ici, mais encore, Cela ne signifie pas que ceux qui sont au ciel nous regardent maintenant en train de courir cette voie, cette course dans laquelle Dieu nous a placés, mais plutôt c'est pour signifier que si nous avons besoin d'exemples de ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu cette vie de foi et qui sont eux-mêmes maintenant passés de cette vie pour être avec le Seigneur qui les a rachetés, alors il nous suffit simplement de regarder leur témoignage. Voilà ce qui signifie ici une grande nuée de témoins dans la littérature du jour. Tant les Grecs, mais aussi les Latins utilisent fréquemment le terme nuage pour exprimer un grand nombre de personnes ou de choses. Alors, il se réfère ici des exemples que nous venons de voir dans le chapitre 11 de ce que Dieu, surtout mentionné dans l'Ancien Testament, les exemples de ce que Dieu a sauvé par sa grâce et de la manière que ceux-là ont été appelés par Dieu et ont eu la révélation. Voilà la foi, c'est la révélation de Christ en eux qui les a motivés, qui les a poussés dans leur vie à vivre les vies qu'ils ont vécues, et cela pour la gloire de Dieu. D'autres sont morts comme des martyrs. Et c'est ça le mot que nous voyons ici dans le verset 1, le mot témoin. Dans l'original, le grec, ça signifie des martyrs. Et c'est sur ça que l'apôtre qui a écrit aux Hébreux a terminé parlant de ceux qui ont subi des moqueries, verset 36, Hébreux 11. Et le fouet, les chaînes et la prison, il fut lapidé, scié, torturé. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voilà cette grande nuée de témoins mentionnée ici dans le verset 1 du chapitre 12. Mais notons, comme c'était écrit dans le verset 38 du chapitre 11, « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, mais néanmoins, ils étaient des hommes et des femmes de foi. » Cette foi n'était pas en eux naturellement, mais c'est par la grâce divine que Christ s'est révélé en eux par son esprit. Et donc, ils se sont dédiés entièrement dans leur vie jusqu'au bout au témoignage de Christ. C'est écrit dans le verset 39 encore, « Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, même jusqu'à la mort, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » C'est-à-dire, ayant eu Christ révélé en eux, ils savaient que lorsque Christ serait venu, il allait mourir à leur place pour payer leur dette. Et c'est ça qui les fortifiait dans leur vie, que ce soit Abel, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, Jacob, Isaac, tout cela, que c'est cette grâce de Dieu qui les soutenait à travers leur vie. Et c'est écrit dans le verset 40 du chapitre 11, « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous qui vivons de ce côté de la croix, afin qu'il ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Voilà l'exemple alors d'une vie de foi. C'est une vie qui est donnée par Dieu dans sa grâce. Dieu l'a ordonnée depuis avant les temps éternels, mais que Christ lui-même est venu pour accomplir dans sa vie à l'égard de tous ceux que Dieu a élus du début du temps jusqu'à la fin, afin que aucun ne puisse parvenir à ses droits de l'éternité et de passer l'éternité avec Dieu d'une manière différente que l'autre. C'est écrit afin qu'il ne parvienne pas sans nous. La perfection, c'est la justification, c'est être justifié devant Dieu, déclaré juste. Voilà la justice que chacun de ceux qui est l'objet de cette grâce de Dieu partage, c'est en Christ. Alors, voilà la définition de la foi. C'est d'avoir cette même foi comme l'apôtre Jude a écrit dans son épître. La foi, une fois transmise au saint, une fois pour toutes. Ouais, ça c'est la foi, c'est la révélation de Christ et de sa mort au cœur de ceux que Dieu a choisis dans sa grâce et pour qui Christ est mort. Donc ça c'est vivre une vie de foi, c'est de vivre selon cette foi que Dieu donne à ses enfants et a pour l'objet le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, vivre une vie de foi selon ce qui est écrit ici, c'est vivre une vie de renoncement à nous-mêmes. On ne peut pas dire que nous sommes attachés à Christ et puis en même temps dire que nous suivons notre propre voie. Non. Vivre une vie de foi, c'est renoncer à nous-mêmes. Comme Christ a dit, si quelqu'un veut être son disciple, il doit renoncer à lui-même, à tout ce qui le concerne. Parce que vivre une vie de foi, c'est vivre en Jésus-Christ, à qui revient toute la gloire dans le salut. Nous n'avons rien à ajouter à notre salut, que c'est Christ qui a tout accompli. Et c'est pourquoi ici, c'est écrit dans le verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Qui nous a ouvert cette carrière, cet appel, c'est Dieu lui-même. Et donc, comme dans un événement où il y a des coureurs et une course qui se prépare, tous les vêtements qui ne sont pas nécessaires pour cette course, les athlètes maintenant mettent de côté. Et d'autres, surtout parmi les Grecs, souvent se mettaient complètement à nu pour courir, pour que rien ne les empêche à courir dans cette course dans les meilleures conditions. Et voilà l'exemple que l'auteur donne ici de ce que c'est vivre une vie de foi. C'est de renoncer, comme c'était écrit ici, à tout fardeau. Et de là, ça signifie maintenant quel fardeau? Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai que nous sommes justifiés devant Dieu par sa grâce et par l'œuvre accomplie du Christ à la croix. C'est ainsi dans notre état devant Dieu. Nous sommes déclarés justes, mais cela ne signifie pas que nous sommes toujours des pécheurs. Rien ne change aussi longtemps que nous sommes dans cette chair. Nous sommes aussi pécheurs qu'on n'a jamais été depuis notre naissance. Mais notre espoir pour le salut est dans cette justification accomplie par Christ et Christ seul. Mais lorsqu'il s'agit ici de vivre cette vie de foi, alors nous renonçons parce que nous savons que nous sommes toujours attachés à cette chair. Comme Paul lui-même l'a signifié dans son épître aux Romains, dans le chapitre 7, où il avoue que quoi qu'il avait le désir de servir le Seigneur et de se soumettre à la loi, il constatait qu'il y avait en lui-même une loi qui se manifestait et qui était toujours attachée à lui. Par exemple, dans Romains chapitre 7, il dit dans le verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. » Le mot charnel signifie « je suis toujours dans cette chair pécheresse. » Et notons, « vendu au péché ». On ne peut jamais dire dans nos vies aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, que nous avons eu la victoire sur le péché. Il y en a qui raisonnent comme ça et disent non, mais que depuis qu'ils se sont donnés à Jésus, que maintenant ils ne pêchent plus. Ce sont des menteurs. Paul lui-même a dit, je suis charnel vendu au péché. Donc, vivre cette vie de foi, c'est reconnaître que nous sommes toujours pécheurs et que si nous devons courir dans cette course dans laquelle nous sommes placés, il nous faut renoncer à tout ce qui nous concerne, ne cherchant pas la gloire pour nous-mêmes, mais désirant que toute la gloire revienne à Christ, que si même nous courons, c'est grâce à ce qu'il nous donne de pouvoir courir. Autrement, on ne pouvait jamais vivre cette vie de foi. Dans Romains 7, verset 15, nous pouvons tous, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons nous identifier avec ce que Paul dit, Romains 7, 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et notons, c'est au temps présent, toujours en moi. Donc, vivre une vie de foi, ce n'est pas se déplacer, se vanter pour dire, ah, voilà, si vous étiez comme moi, ayant la foi, vous pouviez aussi vivre une vie de victoire sur le péché. Combien de gens se vantent? Pourtant, ce sont des pécheurs que dans leur cœur sont toujours pécheurs. Et si Christ n'a pas payé leur dette, alors ils seront certainement condamnés. Mais donc, nous pouvons, revenant dans Hébreux chapitre 12, reconnaître que nous devons néanmoins renoncer tout péché qui nous enveloppe, notons, si facilement. C'est parce que nous sommes pécheurs de nature. Donc, nous devons renoncer à toute idée que nous pouvons, nous-mêmes, de notre propre force, courir et vivre cette vie de foi. Non, nous dépendons entièrement de Christ pour cela. Et c'est pourquoi, comme c'est écrit, qui nous enveloppe si facilement, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous pouvons avouer combien le péché nous prend au piège si facilement. Ce n'est pas, on ne peut pas blâmer le diable, on ne peut pas blâmer le monde ou les circonstances, non, c'est en nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous devons avoir, comme nous allons voir, les yeux et le regard sur Christ et Christ seul. Autrement, comme c'est écrit, nous enveloppe si facilement. Le mot « là » peut être traduit comme des péchés qui nous piègent si facilement, qui nous prennent au piège. Voilà, dans ce sens de nous envelopper. Et donc, nous renonçons à toute pensée que nous pouvons nous-mêmes courir, parce que le fardeau du péché est toujours en nous. Mais nous regardons en tout temps à Christ et à Christ seul. Je dirais que le péché qui nous enveloppe, parce que notons, c'est mis au singulier ici, dans le verset 1, le péché qui nous enveloppe si facilement. Je sais que le péché qui nous sert de piège si facilement, ce n'est autre que l'incrédulité. Parce que nous sommes pleins d'incrédulité. Même ayant cette foi qui nous est donnée par la grâce de Dieu, néanmoins, nous devons reconnaître que nous sommes si incrédules en ce qui concerne la parole de Dieu et ses promesses en Jésus-Christ. Et combien de fois nous cherchons des remèdes en ce qui concerne notre péché dans des solutions humaines et non pas en Christ et en Christ seul. Mais troisièmement, en ce qui concerne vivre une vie de foi, je dirais que c'est une vie décrite comme une course à courir avec endurance, avec persévérance. Beaucoup s'imaginent ou bien présentent la foi comme étant une décision de l'homme, que l'homme prend sa décision pour Jésus et voilà, maintenant, il n'a plus besoin d'autre chose, simplement de se confier à sa décision. Non, ici, nous remarquons que la foi n'est pas une décision, c'est une course. C'est écrit ici, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On ne peut pas courir tant que Dieu ne nous donne la vie et la grâce de courir, mais lorsqu'il donne cette grâce, nous courons. Mais nous courons avec endurance ou bien avec persévérance. C'est endurer, c'est persévérer. Ceux sont sauvés qui persévèrent jusqu'au bout. Mais ce n'est pas notre persévérance. C'est Dieu qui nous garde par sa grâce. Donc, voilà cette vie de foi, c'est une vie d'endurance. Je ne peux pas dire non, mais Christ s'est déjà révélé en moi depuis des années, donc ça va. Non, jusqu'au bout, nous devons prendre cette vie comme une course dans laquelle nous courons. Et c'est Dieu qui nous donne cette persévérance de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Cela signifie la patience de pouvoir continuer à courir dans cette grâce que Dieu nous donne. Et nous avons cette assurance que c'est exactement ce que Dieu fait. Paul a rendu témoignage de cela dans Actes chapitre 20 que Luc a écrit et le verset 24 en parlant de sa vie. Il dit ici, acte 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Voilà un exemple aussi de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement parce que la chair voudra que nous prenons notre vie à l'égard et que nous nous soucions de ce qui serait peut-être la fin. Vu les persécutions, les difficultés et les oppositions que nous allons rencontrer dans cette vie, mais Paul dit, pour moi, Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pas encore le fardeau qu'il faut rejeter, le renoncement de soi. Ne pas considérer nos propres vies physiques ou bien cette vie dans laquelle nous vivons comme étant une chose précieuse. Mais pour lui, il dit, pourvu que j'accomplisse ma course, voilà le mot, ma course, avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ah, quelle bonne aspiration nous voyons ici, que si Dieu me donne encore la vie aujourd'hui, parce que chaque fois que je me lève de mon repos, je dois courir, sachant que le Seigneur m'a donné encore un jour à vivre dans ce monde. Mais quel est mon but de vivre? C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de témoigner à chaque tour. Quand les gens demandent, mais pourquoi vous courez de la manière que vous courez, ma réponse est simplement, c'est à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à mon égard. C'est tout. Nous ne cherchons pas la gloire en nous-mêmes. Nous avons renoncé à cela pour courir. Mais notre désir, c'est la grâce de Dieu et la grâce de Christ seul. Alors voilà cette course qui nous est proposée ici, que nous courons avec persévérance, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous soutenant. Si ce n'était pas réellement sa grâce qui nous a révélé Christ, on ne pouvait pas courir. La première fois qu'il y a des oppositions, des persécutions, on allait facilement abandonner, trouver une raison de ne pas continuer. Mais ici, le mot « course » qu'il utilise quand il parle de courir avec persévérance dans cette course dans laquelle nous nous trouvons, le mot, c'est un mot en grec qui signifie « agonie ». Ça vient du mot « agona ». Donc, c'est pour désigner des conflits qu'on peut anticiper dans cette vie de foi, des luttes de toutes sortes. C'est de ça que Paul parle dans Philippiens chapitre 1 et le verset 30, par exemple. Philippiens 1, le verset 30. Il dit, en soutenant le même combat que vous avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. C'est un combat. La vie de foi n'est pas une vie de l'aise, mais aussi longtemps que nous sommes dans cette vie. Nous courons, le mot courir là, c'est agoniser, c'est de supporter toute opposition à cause de Christ. Et nous savons que ce message de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, de l'Évangile, oui, c'est la bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle seulement pour ceux qui ont reçu cette grâce de Dieu, de l'embrasser. Autrement, le monde est contraire à ce message parce que ça donne toute la gloire à Christ dans le salut, aucune gloire à l'homme. Mais nous devons anticiper alors ces conflits tout le long de cette course. Et puis, quatrièmement, cette vie de foi est une vie que le Seigneur Jésus lui-même a déjà vécue au nom de ses élus. Oui, nous pouvons retourner en arrière et voir cette nuée de témoins mentionnés, que ce soit Abel, Enoch, que ce soit Noé, Abraham et autres, mais nous n'avons pas un meilleur exemple d'une vie de foi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi l'auteur dit ici dans le verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, Voilà comment nous courons comme ceux qui courent dans une course. Ils ont le regard sur la fin de cette course. Mais nous, nous courons, nous ne savons pas combien de temps nous avons à courir. C'est Dieu qui détermine le jour, les jours de nos vies. Mais ce qui est sûr, en courant, nous courons avec des yeux, les regards sur Christ. Et Christ seul, quand c'est écrit, ayant les regards fixés, d'où viennent les yeux pour même voir Christ? Et ça vient de Dieu lui-même, c'est sa grâce qui nous ouvre les yeux. Et où est-ce que ces yeux sont fixés alors? C'est pas pour sur nous-mêmes. Et certainement, ce n'est pas à ceux qui sont à côté de nous. Non, c'est comme un coureur, il ne regarde que devant pour courir. Donc, ayant nos yeux fixés sur Jésus, pas n'importe quel Jésus, mais le Christ de la Bible. Et c'est ainsi que ceux qui vivent cette vie de foi, ils ont le regard. Ce n'est même pas sur leur propre foi. Il y en a qui ont la foi dans leur foi. Ils sont toujours en train d'examiner leur foi. Non. Ici, ayant le regard fixé sur Jésus, le mot grec ici pour regarder, c'est un mot qui est beaucoup plus complet que ce que nous pouvons même pouvoir traduire ici en français. Ça contient cette proposition ou préposition qui détourne le regard. Le sens est de détourner le regard de tout le reste et de regarder uniquement au Seigneur Jésus. Nous ne devons pas même fixer nos regards sur la nuée du témoin, mais ayant le regard sur Christ qui est venu, qui a vécu cette vie à l'égard de son peuple, à la satisfaction de son Père. Il est mort, ressuscité et maintenant monté au ciel. Donc, ayant le regard sur celui qui maintenant vit au ciel et il est assis sur le trône où il intercède en faveur de tous ceux pour qui il est mort. Notons de quel Jésus nous parlons ici. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Il y en a qui ont le regard sur un Jésus idole. C'est-à-dire, ils croient bien que c'est leur profession de foi qui les soutient. Et donc, ils regardent un Jésus qui exige d'eux toujours avoir des yeux sur lui et sinon, ils risquent de perdre le salut. Non. Notons ici les regards sur quel Jésus. C'est écrit ici, il est le chef et le consommateur de la foi. Le chef signifie l'auteur. Donc, personne ne peut avoir cette foi tant que Christ, le Seigneur Jésus, ne lui donne cette foi. Et non seulement l'auteur, mais celui qui finit, le consommateur de la foi. C'est pourquoi nous avons cette assurance que si vraiment nous vivons cette vie de foi, c'est Christ qui nous soutient. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est lui qui nous préserve. Voilà le sens de la persévérance dans la foi. C'est lui qui nous préserve. Paul, en écrivant aux Philippiens dans son épître, a dit ceci dans Philippiens chapitre 1 et le verset 6. Et voilà cette foi que Dieu donne à ses élus. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, non, celui qui l'a commencé, ça c'est Jésus qui est le chef, l'auteur de cette foi, mais c'est écrit, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a su que nous ne soyons jamais découragés pour maintenant quitter cette course, de la foi, cette vie de la foi, mais que nous persévérons jusqu'au bout. Alors, on peut dire que le Seigneur Jésus est avec nous sur la ligne de départ, comme dans une course, et il est avec nous jusqu'à la ligne d'arrivée et tout le long de la course qui nous est proposée. Quel bonheur de savoir cela. Mais encore, comment est-ce que nous pouvons nous confier à lui à cause de la course que lui-même, il a déjà courue? C'est lui qui est allé au-devant de nous comme notre souverain sacrificateur. Et donc, tout ce qu'il a accompli, c'est pour des pécheurs comme nous qu'il a accompli. C'est pourquoi c'est écrit là dans le verset 2, « En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Tout ce que nous allons souffrir dans cette vie, ça ne peut pas comparer du tout à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré à la croix et comment il a dû mépriser l'ignominie. Mais maintenant, c'est assis à la droite du trône de Dieu. Si vous voulez parler de la victoire sur le péché, c'est Christ lui-même. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans le péché. Et c'est pourquoi il est le sauveur. C'est lui qui a vaincu le péché. Donc, le péché peut nous affliger, bien sûr, dans cette chair, mais le péché ne peut pas nous condamner, parce que Christ a déjà pris cette condamnation. Oh, que nous devons reconnaître tout le bien qui découle de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a pu endurer avec triomphe par l'épreuve de la croix. Il a pu garder sa langue. Et voilà, comme notre substitut, c'est le fait qu'il a gardé sa langue que nous aussi, même lorsque nous plaignons de notre sort, et voilà encore l'incrédulité, nous ouvrons nos bouches pour parler de n'importe quoi. Notre salut, c'est dans le fait que Christ lui-même a pu garder sa langue. Et dans cela, en toutes choses, ses pensées, tout était conforme à la loi, à la justice de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est juste pour justifier, déclarer juste ceux pour qui Christ est mort. C'est écrit « mépriser l'ignominie », c'est-à-dire mépriser la honte. Alors, l'un des éléments les plus saillants de la torture de la croix était son extrême honte, le fait d'être mis à nu, exposé. C'est la manière que Dieu a ordonné à ce que Christ meure pour s'identifier avec des pécheurs. Il n'a pas mérité mourir de cette manière, mais c'est ce que la loi exigeait, puisqu'il a pris la place des pécheurs. Donc, c'était nécessaire qu'il soit frappé de cette manière, mais c'est pas ses blessures que nous qui sommes à lui et pour qui il est mort, nous recevons maintenant la bénédiction. Mais rien en ce que les gens peuvent nous dire ne doit nous décourager, parce que cette course que nous courons, il y en a du monde qui vont se moquer, surtout du fait qu'ils ne croient pas à ce Jésus qui nous est révélé. Pourtant, en tout cela, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, qui a déjà méprisé l'ignominie, et il a enduré jusqu'à la victoire. Alors, la honte, je sais que c'est une épreuve importante, mais dans tout cela, rien n'a détourné notre Seigneur Jésus-Christ de cette tâche que le Père lui a donnée, de tout supporter afin qu'il soit le sauveur victorieux à l'égard de son Père. Et où est-il maintenant? C'est écrit, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. À la droite, c'est la place d'honneur. Mais ce que nous savons, c'est que ceux pour qui, bien vrai, nous sommes en train de courir cette course ici-bas, mais nous avons déjà notre place auprès de lui dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre souverain sacrificateur. Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 4, et c'est ça que doit nous encourager dans cette course ici-bas. Et en Christ, pour l'exemple, c'est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Éphésiens 2, 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Même en cela, nous ne devons pas nous décourager, imaginant que l'opposition à laquelle nous faisons face, ou bien les persécutions, que cela signifie que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, ceux qu'il aime, il châtie. Et son amour est éternel. C'est pourquoi il a envoyé son Fils mourir, afin que nous voyons en Christ son Fils, cet amour éternel. Mais c'est écrit, verset 5, Éphésiens 2, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et notons, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble. » Cela signifie que lorsque Christ a enduré la croix, qu'il est mort, ça c'était notre jugement. Ça c'était notre mort, si nous sommes en lui. Mais aussi dans sa résurrection, il nous a ressuscités, notons, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne suis pas encore là, dans cette chair. Je continue à courir cette course dans laquelle il m'a placé par sa grâce. Mais je sais que lorsque le temps est venu, que Dieu a ordonné à ce que je sois maintenant enlevé de ce monde, soit par la mort ou bien au retour de Christ, que jusqu'au bout, comme je disais, c'est Christ qui est là à la ligne de départ, il est là aussi à la ligne d'arrivée, et toute la gloire lui revient. Il y a quelqu'un qui a rendu ce témoignage une fois. Il a entendu une prière de quelqu'un qui a demandé, « Seigneur, si nos cœurs sont durs, rends-les doux. » C'est ce que Dieu fait par sa grâce. Mais il a continué, « Mais si nos cœurs sont trop doux, c'est-à-dire sensibles, à être découragé, rends-les durs. » Je ne sais pas si vous avez jamais prié de cette manière, mais il dit que le Seigneur les rend durs afin que nous persévérons jusqu'au bout. Alors que le Seigneur soit béni dans ce que nous venons d'entendre et nous encourage dans cette vie de foi. Amen.